Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. FTX sous le chapitre 11, la loi des faillites aux États-Unis, la deuxième plateforme mondiale de crypto-monnaie, est donc dans une situation bien difficile. Faut-il craindre un risque systémique si les cryptos s'effondrent, comme on a pu le vivre en 2008 après la chute de Lehman Brothers? Ce sera la question. La réponse, on avait commencé à en apporter une vendredi. Le risque n'est évidemment pas comparable. On va vous parler du salon du Made in France, sous un angle, vous allez voir, dont personne n'a parlé. Un angle assez surprenant. Attention de ne pas trop emmerder les automobilistes, Bruxelles a confirmé qu'en juillet 2025, la norme Euro 7 va s'imposer sur les moteurs diesel, limitant à 60 mg par kilomètre le niveau maximum d'émissions de dioxyde d'azote pour les nouveaux véhicules légers. De plus en plus de villes se convertissent aux zones de faible émission. Bordeaux va y passer cette semaine pour son hypercentre. Et puis mercredi, la ristourne sur les carburants passe de 30 centimes par litre à 10 centimes par litre. Comment faire payer les super dividendes? C'était l'objectif d'une proposition, enfin d'un amendement plutôt, du chef des députés MoDem, Jean-Paul Mattei. Il s'est rangé à l'avis de la majorité et notamment du gouvernement de ne pas passer par la taxation, mais il y a bien un projet qui sera porté en deuxième lecture du projet de loi de finances pour faire participer les entreprises qui versent des super dividendes. D'ailleurs, on a eu un chiffre pour les dividendes du CAC 40 en 2021, publié par une ONG anticapitaliste, certes, mais le montant est de 57,5 milliards d'euros. C'est un record absolu. Et puis, on parlera de cette loi, une proposition de loi qui va être déposée pour protéger les propriétaires contre les locataires malhonnêtes ou indélicats. Généralement, on a toujours tendance à considérer que le propriétaire joue le rôle du méchant et que le locataire joue le rôle du gentil. Voilà un texte qui nous dit le contraire. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, chef d'entreprise, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Vous avez publié « Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action » chez Stock. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule « Le libéralisme stratège contre le chaos du monde », publié chez Odile Jacob. C'était vendredi. FTX, après le renoncement finalement de Binance, de racheter FTX, son concurrent, Binance étant la première plateforme de crypto-monnaie, se met sous la protection du chapitre 11, la loi sur les faillites aux États-Unis. Sa page d'accueil indique toujours depuis jeudi qu'il est actuellement incapable de traiter les retraits, c'est très clair, hein, et qu'il déconseille fortement de faire des dépôts. FTX a vécu une sorte de bank run, un rush de l'ensemble des clients, des 100 000 et quelques inscrits sur son site, voulant récupérer d'un coup d'un seul l'intégralité de leur argent, et probablement en dollars plus qu'en Bitcoin ou en Ethereum. Eh bien, patatras, ça n'est pas possible. Comment vous regardez cette histoire, Christian Saint-Etienne, tout de suite, quand on voit un acteur financier, on se dit, oulala, Lehman Brothers, 2008, risque systémique. Et moi, ma réponse, c'est de dire que le marché des cryptos n'est pas too big to fail et que s'il tombe, ce sera comme n'importe quelle bulle spéculative qui tombe.
À ce stade, effectivement, il n'y a pas de risque systémique, sauf si Binance, qui est la première plateforme mondiale d'échange de crypto, chutait également, puisque FTX était la deuxième.
Oui, mais ça resterait dans le monde des cryptos.
Ça resterait dans le monde des cryptos, mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de risque systémique. Néanmoins, vous avez des... Si vous prenez également les clients de Binance, vous avez des centaines de milliers de consommateurs et de ménages plutôt au niveau de vie, qui vont perdre des sommes considérables, donc ça aura quand même un effet sur consommation bien durable. Mais au-delà, ce qui est très important dans cette affaire, c'est la question de la régulation de la dark finance, c'est-à-dire toute la finance de l'ombre qui n'est pas soumise aux mêmes réglementations que les banques. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec FTX? D'abord, on aurait dû avoir un signal extrêmement puissant qui conduise le régulateur à réagir. C'est que, au cours de cette année 2022, FTX a transféré son siège aux Bahamas. Bon, ça devrait normalement conduire les régulateurs à immédiatement investiguer. Le deuxième point, c'est que toutes ces plateformes n'ont pas de réglementation sur le minimum de fonds propres. Contrairement aux banques, les téléspectateurs ne savent pas forcément que les banques, depuis la crise de 2008, ont vu leur réglementation de fonds propres fortement augmenter. Et aujourd'hui, les banques systémiques doivent avoir des fonds propres de l'ordre de 12% par rapport aux enjeux de risque. Donc là, il n'y a aucune réglementation de fonds propres. Et par ailleurs, il n'y a pas de réglementation sur les comptes tiers. Parce que là, quel est le problème chez FTX ? Alors, c'est une plateforme d'échange, donc les gens vendent et achetaient. Mais beaucoup de particuliers laissaient leurs fonds dans la plateforme. Les plus puissants ne le faisaient pas. Donc c'est pour ça que ça réduit le risque systémique. Mais ce sont les particuliers qui le faisaient. Donc là, et je termine par là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ben, il faut mettre en place une régulation des plateformes de crypto-monnaies, mais il faut aller au-delà, il faut regarder ce qui se passe sur les fonds de dette en Europe, ainsi de suite. Mais sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, il y a trois réglementations à mettre en place. La première, c'est des minima de fonds propres. La deuxième, c'est des réglementations systémiques de l'évolution du bilan. Et la troisième, c'est d'exiger que lorsque les gens laissent leurs fonds sur la plateforme, ce soit co-géré avec un acteur tiers, de telle sorte qu'il ne puisse pas arriver ce qui est arrivé, ce qu'on suspecte dans FTX, c'est que la direction se soit servie des comptes de tiers à hauteur de 5 milliards de dollars pour spéculer. Donc c'est tout ces mécanismes qu'il faut casser en urgence absolue, et on a besoin donc d'une réglementation au niveau du G20, mais à tout le moins au niveau de l'Union européenne pour protéger les gens qui interviennent sur les plateformes.
Bon, pour l'instant, effectivement, c'est le désert de réglementation. D'un avis général, les montants en jeu ne sont pas en mesure de provoquer un risque systémique. Après, peut-être qu'on aura la mauvaise surprise de découvrir que des établissements financiers bancarisés, des banques en fait, étaient exposés à des niveaux qu'on ne connaît pas sur ce type de produit.
Alors c'est quand même une affaire où vous avez du bolange. Hein. Vous avez le fonds Temasek là de Singapour qui est en jeu, qui avait investi dans FTX. Vous avez le japonais SoftBank,
oui,
qui est le grand investisseur mondial.
Est un opérateur, hein, et pas une banque, contrairement à ce que son nom laisse croire.
C'est un opérateur, mais à son capital, on trouve par exemple l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, pour des montants colossaux. Donc, tout le monde s'est fait avoir. Et c'est extrêmement malsain. C'est-à-dire que quand vous voyez, y compris des acteurs semi-publics, travailler dans la dark finance, c'est plus que malsain. Il faut réguler et si nécessaire, il faut cogner.
C'est très clair. Et d'ailleurs, si des inquiétudes systémiques existent aussi, enfin aujourd'hui, au-dessus du secteur financier, ça concerne principalement le secteur non traditionnel. On considère que les banques aujourd'hui sont à peu près à l'abri, justement, en conséquence des réglementations prudentielles qui leur ont été imposées après la chute de Lehman Brothers en 2008. Pour ce qui est du secteur non bancaire, là, des inquiétudes peuvent malgré tout exister. Guillaume Poitrinal, vous vouliez nous parler du salon du Made in France, et absolument pas sous l'angle habituel qui pousse à s'intéresser au Made in France, où généralement on dit... Il y a un relent d'un slogan communiste des années 70, acheter français, c'est bien d'acheter français. Et vous avez retenu quelque chose d'autre par rapport à ça?
Oui, bien sûr. Alors, il y a ce salon en ce moment à la porte de Versailles. Ça fait partie des jeunes salons à succès. Ils attendent 100 000 visiteurs, etc. C'est intéressant. Donc, ce sont que des marques, en fait, du Made in France qui sont là et qui exposent. Et en fait, quand on regarde le Made in France, on se dit, bah, c'est bien, on fait un acte patriote quand on achète français. Et c'est formidable. On aide l'emploi en France. On va diminuer nos déficits, etc. Mais on a un deuxième acte et on doit avoir un deuxième prisme, qui est le prisme des émissions de carbone. Parce que un des gros avantages du Made in France, c'est qu'il est bas carbone par principe. C'est-à-dire que vous allez avoir des produits qui sont en circuit court, c'est-à-dire que vous avez peu de transport. Vous avez des produits qui sont fabriqués avec une énergie qui est la plus décarbonée du monde, il faut le rappeler. C'est à base de nucléaire et d'hydroélectrique pour l'essentiel, hein, pour les 4/5 de notre énergie, elle est décarbonée. Et puis ensuite, vous allez avoir une industrie qui s'appuie quand même sur la puissance agroforestière française, hein, qu'il s'agisse de Canson, qu'il s'agisse de Bonne Maman à Brive, qu'il s'agisse voilà d'autres produits de Lu dans le Nord, vous allez avoir en fait ça. Et donc en fait, quel est le principal atout du Made in France, c'est d'être bas carbone. Sauf que, en France, on vous indique énormément de choses sur ce que vous consommez, mais on vous donne pas l'empreinte carbone. Donc moi, ce que je demande ardemment et tous les jours, c'est qu'il y ait un indicateur carbone, un étiquetage carbone sur les pots de confiture, sur les baskets, comme ça vous irez vous chausser en espadrilles fabriquées en Vendée, au lieu d'acheter des tongs fabriqués avec du charbon en Chine. Et à ce moment-là, vous aurez un vrai geste citoyen. Et nos amis les éco-activistes, ils devraient militer pour l'étiquetage carbone de tous les produits à égalité avec le prix. C'est-à-dire, j'ai le prix d'un côté et j'ai l'empreinte carbone du produit sur son cycle de vie, fabrication, exploitation, si c'est une voiture, et fin de vie. Aujourd'hui, je peux, voyez, dans les marques là qui sont citées, il y a cette grande marque qui est Peugeot. Eh bien, Peugeot est fabriqué, l'usine tourne avec cette énergie décarbonée. Son concurrent, Volkswagen, lui, tourne avec une énergie qui est largement issue du charbon et de la lignite, ce qui est encore pire que le charbon pour l'atmosphère. Eh bien, vous ne le savez pas. Vous savez combien va émettre la voiture à force de rouler, mais la phase de fabrication, elle vous êtes parfaitement inconnu, et c'est ça qui n'est pas normal, et c'est ça sur lequel nous devrions tous militer.
Je ne suis pas certain que tous les consommateurs soient prêts à acheter un bilan carbone plus qu'un prix.
Eh bien, détrompez-vous, ils le font, vous savez. Ils le font, il y a une marque qui se trouve être la plus grosse capitalisation de l'automobile et qui s'appelle Tesla, où les gens ont le sentiment d'acheter,
ont le sentiment d'acheter
bas carbone, écolo, et Tesla vaut 1000 milliards de dollars, à mon dernier décompte, ça doit être un petit peu moins en ce moment, la bourse s'est calmée. Mais en tout cas, c'est toujours plus que l'ensemble des capitalisations de tous les constructeurs du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Tesla est reconnu comme pouvant offrir une valeur ajoutée environnementale et que les gens sont prêts à payer la Tesla 70 000 euros en faisant la queue. Puisque Tesla, vous avez de la queue pour acheter une Tesla, et quelque part...
C'est quand même pas la voiture du peuple.
Eh bien, c'est deux fois plus cher que l'équivalent dans les marques traditionnelles. Oui. C'est quoi cette différence? C'est juste l'attribution d'une valeur ajoutée environnementale.
C'est aussi la marque qui fait un peu rêver. La marque Tesla, ça fait un peu rêver, au-delà simplement de l'empreinte carbone de la voiture.
C'est peut-être un peu fini, mais effectivement, il y a 4-5 ans, ça faisait rêver. Mais...
Voilà, et c'est comme l'iPhone, on va se payer un iPhone d'une fortune, alors que franchement, il fait à peu près la même chose que
un
bon Android.
C'est le marketing et c'est ce qui nous
le
PIB.
Là, c'est autre chose.
Je rappelle à tous que le PIB est une somme de valeur ajoutée et que donc plus vous faites de valeur ajoutée, même si elle est issue strictement du marketing, et bien plus vous contribuez au PIB.
Vous savez, Guillaume, il y a quelquefois des trucs très contre-intuitifs sur le bas carbone. Si vous faites un sondage en disant aux gens, quand vous faites vos courses, si vous voyez tomate d'Espagne, est-ce que vous... Ah ben non, tomate d'Espagne, non, je prends pas. Eh ben j'ai rencontré une boîte familiale qui depuis les années 60 cultive des fruits et des légumes au sud de l'Espagne et au nord de l'Afrique. Et en fait, il est très convaincant, le fils de famille d'ailleurs, parce que c'est de génération en génération, il explique que l'intégralité des produits qu'il cultive au sud de l'Espagne et au nord de l'Afrique sont cultivés avec des conditions météo naturelles. Et ben, il dit, le bilan carbone d'une tomate qui a été faite au sud de l'Espagne est nettement inférieur, malgré les deux jours de camion pour la rapatrier en France, au bilan carbone d'une tomate qui a vécu intégralement sous serre, sous nos contrées, et qui sera vendue avec le label Made in France.
Eh bien, sachez, Nicolas, que nous avons trouvé, nous, en calculant l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie, donc construction, exploitation, nous avons trouvé ce type d'anomalie. C'est-à-dire que de temps en temps, il vaut mieux aller chercher un matériau qui est naturel, qui pousse naturellement, etc., un tout petit peu plus loin, plutôt que d'aller à proximité.
C'est
un peu par exception. Le tout, c'est d'être scientifique. Il faut être scientifique dans cette approche du carbone. On a besoin de réduire notre empreinte carbone. Il faut arrêter d'être sur les impressions. Il faut être sur le calcul. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs pour calculer précisément l'empreinte carbone des produits et des services sur le cycle de vie.
On sait le faire aujourd'hui. On est capable aujourd'hui d'aller mettre une étiquette sur tout.
Non seulement ça, mais je vais vous dire, toutes les grosses boîtes aujourd'hui le savent pertinemment, parce que les grosses boîtes, on les a obligées à remplir à peu près 250 critères environnementaux, parmi lesquels il y en a un petit qui souvent est perdu sur la page 25, qui s'appelle l'empreinte carbone des produits. Donc toutes les grosses boîtes connaissent. Vous parlez à L'Oréal, vous parlez à une capsule Nespresso. Les grosses boîtes connaissent au milligramme de CO2 près l'empreinte carbone du produit. Et il suffit juste de le dire et de leur faire dire librement, elles ne mentiront pas. Les boîtes du CAC 40 ne sont pas une des usines à mensonges, comme on essaye de le dire. Elles ne mentent pas parce qu'il y a la responsabilité du patron. Et puis ça coûte trop cher. Et puis il y a eu les problèmes des Allemands avec les moteurs, un petit peu les calculs des moteurs un peu trafiqués. Donc
ça nous a fait beaucoup de mal cette histoire de Volkswagen Gate. Parce que si on a imposé des calendriers complètement dingos pour la bascule de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est vraiment lié à un traumatisme qui a entraîné des décisions politiques sans aucune raison industrielle. Tiens, ça m'amène à vous faire réagir à tout ça, là. Bordeaux va convertir une partie de son hypercentre en zone de faible émission. Déjà, les commerçants, les artisans, commencent à râler parce qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de voiture malgré les aides pour pouvoir continuer à pénétrer dans ces centres-villes où ils ont besoin d'aller. Là, on voit que Bruxelles a validé une nouvelle norme dès juillet 2025, une norme Euro 7 qui va à nouveau fixer des limites de milligrammes d'oxyde d'azote. Là, on va baisser la ristourne sur les carburants. C'est mercredi, elle passe de 30 centimes à 10 centimes par litre. Est-ce qu'on va pas un peu vite? Et puis on est toujours sur cette idée qu'en 2035, on ne vendra plus de moteurs thermiques en Europe. Est-ce qu'on va pas un peu vite au nom du bas carbone?
Non, mais le temps nous est compté, Nicolas. Non, vraiment, le temps nous est compté. Tous ceux qui pensent qu'on va trop vite se trompent. Il faut aller très vite, mais il faut pas se tromper.
Il faut pas se tromper.
Le problème, c'est qu'il faut pas se tromper. Et très certainement, il y avait l'espoir qu'un moteur thermique à 2 litres au 100 de consommation diesel avec un filtre aux oxydes d'azote aurait pu faire la jointure, c'est-à-dire le temps qu'on puisse équiper le pays non seulement de bornes électriques, non seulement de véhicules électriques qui eux avec des fabrications de batteries en Europe, parce que sinon ça n'a absolument aucun sens, voilà. Avec de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire issue du nucléaire. Donc on avait une jointure, parce qu'en effet recharger recharger sa batterie avec de l'énergie issue de la lignite en Allemagne, ça n'a aucun sens. Il vaut beaucoup mieux un moteur diesel en Allemagne aujourd'hui qu'un moteur électrique dont l'électricité est produite par de la lignite, c'est-à-dire le pire du charbon.
La réalité est là aujourd'hui. On est devenu maintenant dépendant du reste du monde pour nos sources d'énergie depuis qu'on est en délicatesse, on va dire, avec la Russie. On sait qu'une voiture sur deux vendue en Europe, c'est une voiture chinoise. Elle est vendue 30% moins chère. J'ai une espèce d'impression, je ne sais pas, Christian Saint-Étienne, que sur tous ces sujets, on oublie en plus le fait qu'il ne faut pas trop emmerder les automobilistes. Généralement, ça se finit mal. Et on avance tête baissée avec des choix politiques qui n'obéissent pas à la raison de l'évidence, à la raison du terrain, à la raison industrielle, à la raison sociale. On voit bien que là, avec l'histoire des ZFE, on veut encore une fois laver plus blanc que blanc, mais vous avez des quantités de gens concernés qui n'ont pas les moyens de se payer la voiture.
Je pense qu'il y a deux sujets à séparer. Il y a les ZFE d'un côté et il y a l'histoire de l'automobile. Alors, sur les ZFE, au risque de vous surprendre, moi, je suis pour. Je pense qu'il faut avoir des zones à faible émission dans tous les centres-villes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait viser assez loin. Il y a à peu près 400 villes significatives en France et je ne me contenterai pas de Paris et de Lyon. Je mettrai des ZFE dans le cœur strict des 400 principales villes de France.
C'est ce qui va arriver. Hein. Avec des calendriers très proches.
Voilà. Ceci étant, je continue. Vous faites une ZFE à la française par des punitions. C'est inacceptable. En revanche, vous réfléchissez de manière stratégique et vous dites, je fais une ZFE. Mais au cœur des villes, j'ai besoin d'artisans. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au même moment où dans ma ville de Bordeaux ou dans ma ville de Lyon, j'impose une ZFE, je mets à disposition des artisans des hôtels d'artisanat au cœur de la ville, où chacun a droit à 10 mètres carrés pour y laisser son matériel, de telle façon qu'il n'a pas besoin, comme à Paris aujourd'hui, quand vous faites intervenir quelqu'un, il vient du fin fond de l'Essonne ou il vient... Donc, pourquoi ça ? Parce qu'il ne peut pas se payer un local à Paris, donc il faut mettre à disposition des artisans, peut-être contre un loyer très faible, et on a déjà commencé à faire ça, il faut le multiplier. Si vous faire des ZFE rationnels, il faut avoir une réflexion sur l'ensemble de l'urbanisme de la ville. Donc, et troisième élément sur la ZFE, pour les artisans, en attendant qu'ils aient à disposition au cœur des villes des ateliers à l'intérieur desquels ils peuvent travailler, on peut parfaitement imaginer que les grands centres commerciaux demain incluent des ateliers, des blocs d'ateliers qui permettraient aux artisans d'être présents au cœur des villes. Donc c'est toute une réflexion urbanistique, mais il faut évidemment pour les artisans une période de transition de 5 ans, c'est-à-dire que vous imposez des limites aux gens qui vont dans le centre-ville, mais les commerçants ont, artisans ont des laissez-passer. Donc ça, c'est sur le ZFE. Sur l'automobile, je suis totalement d'accord avec Guillaume, le bilan carbone absolu, total, c'est-à-dire entre la production des batteries avec de l'électricité au charbon en Chine, ramenée par des porte-conteneurs qui polluent en Europe, et puis ensuite les batteries chinoises pour l'instant ne sont pas conçues pour être déconstruites, il faut passer par du broyage, donc il faut avoir des batteries européennes conçues dès la construction pour être déconstruites. Donc si on doit avoir une interdiction des véhicules thermiques en 2035, on devrait dire sous réserve qu'il y ait une capacité suffisante de production de voitures électriques à base de batteries électriques produites en Europe.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on met de la contrainte, on met des normes, on met des dates hyper proches que personne dans le reste du monde n'est prêt à s'imposer. Il y a comme si l'Europe devait montrer tous les signaux de bienveillance et d'économie verte vertueuse.
Mais elle a raison, l'Europe, de prendre de l'avance, parce que de toute façon, le monde de demain...
Est-ce que ça s'appelle prendre de l'avance ou est-ce que ça s'appelle être certain de se faire doubler par les autres?
Il faut le faire évidemment avec intelligence, avec stratégie.
Mais il faut le couper avec une taxe carbone aussi.
Mais bien sûr, la taxe carbone, elle est indispensable.
C'est pas prévu.
Bien sûr.
Sauf que la taxe carbone, on ne sait pas le faire. On est en train de devoir rendre payant quelque chose qui ne l'était pas, et personne n'arrive à passer à l'acte sur la taxe carbone. Ce qui fait que finalement,
on le fait sur le ciment, mais il faudrait aller beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin, et puis il faut le faire, puisque avec un étiquetage, vous avez au moins une base.
La réalité aujourd'hui, c'est que la transition verte, c'est l'enrichissement de l'Arabie Saoudite et de ses amis, l'enrichissement de la Chine qui est aujourd'hui dominatrice sur des quantités de produits absolument essentiels pour la voiture électrique, l'enrichissement des Américains qui sont exportateurs.
Ça, Nicolas, c'est à court terme, mais à moyen et long terme. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de charbon de toute façon. Et si on extrait tout le charbon, je rappelle qu'on va extraire 9 milliards de tonnes de charbon cette année, c'est-à-dire plus d'une tonne par habitant de la planète.
On marque une pause.
Si on extrait la planète ne sera plus vivable.
Comment fonctionne comme un séminaire, je dirais que l'étiquetage des produits, il est au moins aussi important sur les produits intermédiaires que sur les produits finaux.
On marque une pause. On marque une pause. Comment faire payer les super dividendes? Et j'ai bien dit payer et pas taxer. Un compromis a été trouvé il y a quelques heures.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Guillaume Poitrinal, chef d'entreprise et fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Il a publié « Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action » chez Stock. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, auteur du « Libéralisme stratège contre le chaos du monde » chez Odile Jacob. Énormément de réactions d'auditeurs à tout ce qu'on s'est dit en première partie. Crypto Vims m'écrit 12% de fonds propres pour les réserves des banques, certes, mais dans la crypto, cela ne serait pas suffisant, donc c'est un mauvais argument, d'après lui. La différence, c'est que les banques sont renflouées avec nos impôts quand ça couaque. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas une opération banque centrale pour venir sauver FTX ou Binance, même si Binance était en difficulté. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, dans beaucoup de pays, il n'y a pas eu de renflouement des banques. Il y a eu des garanties apportées en cas de problème. Par exemple, en France, le sauvetage des banques, comme on dit par Nicolas Sarkozy, n'a pas coûté à l'État français. Mais ça a rapporté quelques 2 milliards d'euros. On ne le répétera jamais assez. Tout le monde s'imagine que ça a coûté. Le montant était astronomique, hein, quelques 340 milliards d'euros de garantie publique. Pas d'argent décaissé par l'État.
C'était bien fait.
Le
CDR a coûté plus cher à l'époque, 20 ans avant.
C'était la structure de défaisance du Crédit Lyonnais. Economaniac m'écrit... Les travaux sur le Carboscore sont en cours à l'ADEME depuis quelques années. C'est très compliqué, mais c'est en cours. Voilà.
C'est pour ça que je disais qu'on peut le faire sur les produits intermédiaires, parce qu'il y en a moins. Et déjà, ça obligerait les entreprises à s'activer.
Mais il faut arrêter avec cette idée, parce que là aussi, j'ai des tweets...
Vous êtes trop près, Guillaume, ça boum boum boum.
Il faut arrêter avec cette idée que, finalement, en fait, c'est très difficile de calculer le carbone. En fait, c'est assez facile. C'est assez facile. Et nous, dans le bâtiment, on a les fiches déclaratives d'empreinte, les fiches FDES dans lesquelles. Et donc, la plupart aujourd'hui des fournisseurs de matériaux du bâtiment vous livre le matériau avec son score carbone, avec sa fiche carbone. Alors voilà, alors après tout le monde se critique en disant attendez, le béton, on fait semblant que le sable vienne à 30 km alors qu'il vient d'un peu plus loin. Peu importe, le mensonge est modeste, mais on a ce chiffre. C'est très possible, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, on m'a dit là qu'il y avait plusieurs carbone scores qui étaient privés, hein, qui sont en train de se mettre en place, un petit peu à la mode des Nutri-Score, un petit peu à la mode de Yuka. Vous savez, il y a le site Yuka qui vous dit si oui ou non ce produit sur le truc est dangereux pour la santé. Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Ce qu'il faut, c'est une régulation. Pour le coup, il faut une régulation. Pour le coup, il faut une régulation. Il faut que sur le pot de confiture ou de shampoing, vous ayez le gramme de carbone sur l'empreinte de vie du
ça, ça ouvre d'ailleurs, mais je ne développe pas, mais le capitalisme ne peut fonctionner que dans un monde régulé. Parce que le capitalisme sans régulation s'auto-mange.
Normalement, la principale régulation du capitalisme, Christian Saint-Etienne, c'est le risque de faillite. C'est ça qui régule le capitalisme.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller jusqu'à la faillite pour attendre de voir si nous sommes mal gérés.
Bon, je suis d'accord qu'il y a certains secteurs, notamment on parlait des cryptos, un secteur encore très neuf.
Si c'est le bar du coin, ça va, oui. Mais si c'est une boîte qui emploie 10 000 personnes, on ne peut pas attendre la faillite pour voir que c'était mal géré.
Hervé écrit, si vous tenez compte de l'amortissement prix kilowattheure versus essence, une électrique est moins chère qu'une thermique, ça dépend du prix du kilowattheure.
Oui, mais il y a eu une étude publiée récemment là, qui montre que l'électrique est moins chère pour les toutes petites cylindrées. Les grosses cylindrées d'électrique, les grosses voitures, une grosse BMW électrique est aujourd'hui plus mauvaise pour l'environnement qu'une petite thermique.
L'empreinte carbone de l'ensemble du cycle de vie. Voilà. Le problème, c'est que Bruxelles a décidé qu'il regardait l'empreinte carbone de l'électrique à partir du jour où le conducteur tourne la clé, démarre sa voiture, mais c'est pas l'ensemble du cycle de vie.
Ça, c'est favorable aux Allemands et défavorable aux Français.
Joël pense comme vous, le problème est surtout que pas grand monde ne voit le mur devant nous. Les pénuries de pétrole vont commencer et on va devoir faire une transition encore plus rapide que celle prévue. C'est un peu l'état d'esprit de ce que vous me dites.
Absolument, et c'est là où je pense que Jean-Marc Jancovici a raison sur. Alors moi, je suis pas d'accord sur la fin du chapitre parce que lui est un apôtre de la décroissance et je pense que la seule solution possible, c'est la croissance verte, c'est-à-dire une révolution schumpeterienne de toute l'économie pour passer le plus vite possible au bas carbone. Lui, il dit que de toute façon, il y aura la décroissance et qu'on finira avec 1000 euros de moins sur tous les salaires
moyens. J'aime pas le terme décroissance, Guillaume Poitrinal, mais qu'il y ait un appauvrissement avant qu'il y ait une croissance verte, ça me semble un petit peu écrit.
On ne sait pas, on va voir. Il va y avoir des centaines de milliards d'euros d'investissement dans toutes les entreprises. Moi, je les vois là, dans les grosses entreprises. Aujourd'hui, elles sont en marche.
Je suis d'accord.
Et attention, ce sont pas des petits investissements. Béton bas carbone, c'est pas un petit investissement. L'usine qui doit tourner avec moins d'énergie, etc., c'est pas un petit investissement.
Même les cimenteries, là, ils mettent en place des technologies où sous 3 ans, ils réduisent l'empreinte carbone de 40%.
Guillaume me contredira sans doute pas. Si on veut se passer du ciment Portland du jour au lendemain, je suis désolé, mais le mètre carré à construire est plus cher.
C'est pas vrai.
Comment ça se
Alors
fait
j'en suis. Alors là. Puisque il se trouve que dans le groupe que je dirige, nous produisons 1000 appartements par an en région parisienne et nous avons en chantier 350 000 mètres carrés de bureaux bas carbone, construits pour l'essentiel avec du matériau bois, des bois lamellés collés contre croisés, et nous les livrons. Et nous les construisons au même prix que les immeubles en béton et nous les vendons au même prix que les immeubles en béton. Donc on n'est même pas le Tesla. J'adorerais qu'on puisse être Tesla.
Et
nous avons les marges de tout le monde.
En fait, quel échec, Guillaume.
Nous avons les marges de tout le monde.
Guillaume, question insidieuse, est-ce que votre bois lamellé vient de France?
Il vient pour une petite partie de France notre industrie n'est pas là. Donc chez Monsieur Pifto en Vendée, magnifique usine de CLT dont nous prenons une très grosse partie de la production, et puis sinon ça vient des usines autrichiennes et allemandes, parce que eux ont compris c'était l'avenir des matériaux de construction.
Stratégie dans la filière bois en France.
Absolument.
Où il n'y en a pas depuis 30 ans.
Ah mais ça, la filière bois, il y a une carence énorme dans notre pays, d'autant qu'elle est normalement puissante, cette filière bois. Mais
on a la ressource.
Potentiellement.
Nous, on a la ressource. Le bas carbone en immobilier, c'est principalement des matériaux biosourcés. En France, on a la ressource parce qu'on a une forêt magnifique, et on a tous les promoteurs qui se sont mis quasiment tous en même temps au bas carbone. Donc non seulement WO2 pour s'en poser, mais aussi Nexity, Bouygues, BNP, ICAT, tout le monde s'est mis au bas carbone. Et entre les deux, il manque l'industrie.
Ce sont les chiffres de cet auditeur, moi je ne les ai pas vérifiés. Michel m'écrit, une Tesla Model 3, c'était 37 000 euros en 2022 après les primes, soit moins qu'une 508, dit-il. D'où la ruée vers ces voitures qui, par ailleurs, sont d'excellents produits. Bon, on va pas faire un débat sur...
Aujourd'hui, la moins chère, elle doit être autour de 60 000 euros, même plus.
Ah, quand est-ce que vous faites plaisir Jean-Marc Jancovici sur le... Écoutez, chaque fois que je lui ai envoyé des SMS, il m'a jamais répondu. Donc c'est compliqué. Il n'est pas facile à faire venir Jean-Marc Jancovici. Voilà, le compromis trouvé. Le chef des députés Modem, Jean-Paul Mattei, était très attaché à un amendement qu'il voulait accrocher à la loi de finances pour 2023 qui consistait à faire, à taxer. Donc, la fiscalité, ce qu'il a appelé les superdividendes. Il a considéré qu'on pouvait parler de superdividendes, là c'est vraiment son point de vue. Il a considéré que c'était quand on était 20% au-dessus de la moyenne des 5 années précédente. Bercy veut pas entendre parler de taxation, n'aime pas le signal de la fiscalité. Donc un accord a été trouvé, un compromis, plutôt que de taxer ces dividendes lorsqu'ils sont super, eh bien lorsqu'ils sont constatés, l'idée est d'imposer qu'il y ait un surcroît de participation, d'intéressement ou des primes exceptionnelles pour les salariés des entreprises concernées. Alors maintenant, une expertise technique est en cours pour savoir comment inscrire ça en texte de loi à la deuxième lecture du projet de loi de finances, dans la mesure où, en théorie, ça voudrait dire modifier le mode de calcul de la participation. Mais modifier ce mode de calcul, ça impose de modifier le code du travail. Et un projet de loi de finances n'est pas là pour modifier le code du travail. Donc on rentre vraiment dans la cuisine. Il y a toujours parallèlement des discussions entre les partenaires sociaux pour essayer de faire émerger ce fameux dividende salarié, date butoir fin janvier, et Renaissance a confié à son secrétaire général adjoint, l'eurodéputé Pascal Canfin, une mission sur ce thème du partage de la valeur pour apporter des réponses de moyen et long terme. Christian Saint-Etienne, l'idée de dire qu'il y a des années exceptionnelles où il doit donc y avoir eh bien, un partage exceptionnel du profit, sans passer par la taxation.
Alors, tout ce débat vient de trois entreprises. Total, Engie et CMA-CGM. CMA-CGM, les super-profits disparaissent cette année,
oui,
puisque le transport des conteneurs de Chine en Europe, qui était autour de 7 à 800 dollars, était monté à 5000 dollars.
Ou même plus.
Et ouais, il est redescendu.
Mais on n'est pas au niveau d'avant. Hein.
Mais oui, mais il est fortement redescendu.
Mais fortement redescendu.
Et ensuite, Engie et Total. Donc, on va mettre en place une machinerie d'une complexité inouïe qui posera d'énormes problèmes pour trois entreprises. Donc, à la limite, pourquoi pas faire comme les Espagnols ou les Italiens, faire une taxe spéciale pour les entreprises concernées. Sachant que, pour Total, c'est beaucoup plus complexe puisque les activités de Total en France sont déficitaires.
Alors, donc, pas en 2021.
Ouais, avec le raffinage.
Pas en 2022.
Qui a un peu plus gagné.
Mais en 2021, oui.
Mais sur les 10 dernières années,
ils
ont perdu beaucoup d'argent. Mais surtout, ça pose un autre problème qui est que une entreprise qui a été en difficulté, qui n'a pas versé de dividendes pendant 3 ans et qui se refait la cerise et qui recommence à donner des dividendes, est-ce qu'on va prendre quelle base pour repartir? Donc on voit bien la complexité du sujet. Donc à la limite, il aurait mieux valu avoir une taxe exceptionnelle sur les 3-4 entreprises énergétiques concernées pour ne pas avoir la mise en place d'une chaufferie avec des milliers de tuyaux.
Bon, on est encore là sur un sujet avec une dimension très politique, parce qu'il est bien sûr hors de question pour la majorité de s'aliéner le soutien du MoDem. C'est pas possible. Alors, c'est un combat, une petite croisade qui est menée par le patron des députés MoDem à l'Assemblée. Donc, évidemment, on va trouver probablement de la tuyauterie un peu compliquée pour faire plaisir à tout le monde sans envoyer le mauvais message de la taxation. On y est arrivé, hein, pour les producteurs d'énergie hors gaz, avec l'histoire de la captation de la rente inframarginale pour ces gens subventionnés pendant de très nombreuses années. Dans les contrats, il est prévu qu'ils reversent, en fait, de l'argent passé un niveau de rentabilité du mégawattheure, ce qui est aujourd'hui largement le cas avec les prix que nous avons atteints. Une autre, je vous ferai.
Moi, je veux réagir sur le dividende, excusez-moi. Parce que c'est quand même.
Pas trop long, parce que je voudrais qu'on parle.
Très rapidement, c'est un mal français. C'est un mal français. L'anti-dividende, c'est un mal français. Dès qu'il y a un dividende, on trouve que c'est suspect. Le dividende de ces grosses boîtes, il est généralement issu de profits qui sont réalisés à l'étranger, est généralement reversé à des actionnaires qui sont à l'étranger parce que, pour une raison que vous connaissez, nous n'avons pas de fonds de pension et que notre assurance vie va financer le déficit de l'État au lieu d'être investi dans les entreprises. Le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, si on veut gagner de l'argent sur ses profits, il faut payer du dividende. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, l'impôt sur les sociétés, il est à l'étranger, principalement. Et que si on capitalise en fait ces profits à l'intérieur de la boîte, on va créer de la plus-value boursière et que cette plus-value, elle n'est pas taxée en France, elle est taxée aux États-Unis, elle est taxée en Hollande. Quel est le seul moyen d'aller choper de l'argent pour l'État sur Total, sur Engie, etc. Eh bien, c'est tout simplement de leur laisser distribuer un maximum de dividendes. Pourquoi ? Parce que le dividende, en France, d'ailleurs, il est fiscalisé avec un impôt magnifique qui s'appelle la retenue à la source. Quand vous êtes un étranger et que vous investissez dans une entreprise française, sachez que votre dividende, avec la retenue à la source, est fiscalisé de 20 à 30% suivant les conventions. Et il est fiscalisé à l'euro, au cul du camion.
Un actionnaire comme BlackRock, qui investit dans une entreprise française, est fiscalisé.
Il est fiscalisé. Personne ne le sait. C'est très amusant d'ailleurs, parce que les journalistes économiques l'ont oublié, etc., dans leur truc. Refaites de la fiscalité, ça s'appelle la retenue à la source sur les dividendes. Tout non-résident, c'est sur les non-résidents, donc actionnaires non-résidents d'une entreprise française, eh bien, quand le dividende passe la frontière, quand le dividende s'exporte, il y a une taxe de Bercy qui va, suivant les conventions fiscales, de 15 à 30% à peu près. D'accord ? Ce qui veut dire qu'un dividende de 10 milliards à peu près de Total, il y a 1 milliard qui rentre dans les caisses de Bercy. Donc moi, je suis franco-français, je suis pour qu'il y ait un maximum de dividendes parce que je sais que c'est la seule manière pour Bercy d'aller fiscaliser des profits qui sont issus d'entreprises étrangères, de filiales étrangères. Il faut donc que les filiales rapatrient leurs dividendes sur les sièges parisiens et ensuite le distribuent à l'étranger et que Bercy prenne sa dîme, une dîme la plus importante possible.
Bon, eh ben écoutez, l'argument s'entend, c'est un argument de plus sur les dividendes. C'était dans Les Échos le 8 novembre, Christian Saint-Etienne. Vous y signez régulièrement des chroniques. Celle-ci s'intitulait « Le sacre de Xi ». Alors, Xi Jinping, bien sûr, nous concerne tous. Quel était le message à retenir ?
D'abord, nous sommes plongés dans le conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis.
Très clairement.
Ces deux pays, c'est aujourd'hui ensemble 42% du PIB mondial et 60% des dépenses militaires mondiales. Ce sont deux acteurs, ce sont deux sumos dans un combat à la vie à la mort, hein, même si aujourd'hui même Xi Jinping et Biden se rencontrent à Bali pour la première fois physiquement, néanmoins ce conflit il est sur la table pour les 20 prochaines années. Aucun des deux ne va poser le genou à terre, ils veulent absolument pour les États-Unis rester la première puissance du monde et pour la Chine le devenir. C'est le conflit classique depuis Athènes et Sparte entre une puissance dominante et une puissance ascendante. Donc dans ce conflit, on a un acteur qui est Xi, qui a pris tout le pouvoir en Chine. Alors il faut comprendre la nature de la révolution Xi. Elle vient après les 40 années qui ont été dominées par la constitutionnalisation paradoxale du système institutionnel chinois. C'est-à-dire que Deng Xiaoping, qui avait terriblement souffert à titre personnel de ce qui s'était passé sous Mao Tse-tung, a dit deux choses. Plus jamais de personnalisation du pouvoir, plus jamais de livre rouge qui s'impose à tout le monde comme doctrine unique, et même un troisième élément qui était il faut toujours avoir une direction collective. Qu'est-ce que fait Xi Jinping quand il arrive? Également, ce qu'avait fait Deng Xiaoping, ce qui semble totalement hallucinant, c'est d'introduire une partie du système américain à l'intérieur du Parti communiste chinois. À partir des années 80, les leaderships chinois étaient élus pour 5 ans. Pas à l'intérieur du Parti communiste, mais ils étaient élus pour 5 ans, renouvelables une fois. Donc au maximum 10 ans. Et il faut bien se rendre compte que la Chine, c'est aussi complexe que l'Europe. Entre le nord de la Chine, le sud de la Chine, l'est et l'ouest, il y a autant de différences qu'entre la Scandinavie et la Sicile. Donc il y a des clans très différents et ce système de pouvoir permettait de servir tout le monde. Donc Xi fait sauter tout ça, ils centralisent tout le pouvoir, mais les clans existent encore, ils ferment leur gueule parce qu'ils sont écrasés, mais ils attendent l'erreur de Xi. Hein. Donc ça va être sportif de voir ce qui va se passer en Chine dans les 5-10 prochaines années. Et puis, par ailleurs, il fait ce que Deng Xiaoping ne voulait surtout plus jamais, c'est-à-dire le livre rouge. Donc la pensée de Xi a été constitutionnalisée. Alors on pourrait se dire ici, on s'en fout, ça veut dire quoi? C'est un pays quand même de 400 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ça fait depuis 2018 que tous les journalistes passent par un système de formation de 6 mois où ils apprennent par cœur les principaux éléments de la pensée de Xi. Et tout le système politique est calé sur la pensée de Xi. Donc, il y a une personnalisation du pouvoir dans une dictature qui s'est durcie de façon totalement hallucinante et obsessionnelle. Et tout ça au cœur d'un projet stratégique de la Chine de déboulonner les États-Unis comme puissance dominante sur la planète. Et des États-Unis qui veulent pas renoncer au titre de première puissance. Alors il faut bien comprendre que dans tout ça, et j'en termine par là, l'Europe c'est l'enjeu. L'Europe c'est 20% du PIB mondial et ils viennent ici pour, au fond, quel est l'enjeu? Les États-Unis dominent à peu près 1 milliard. Sur les 8 milliards d'habitants de la planète, vous avez 3 milliards d'habitants qui ont un fort pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat moyen ou fort. Les États-Unis en contrôlent 1 milliard, la Chine en contrôle 1 milliard. Ils se battent pour le troisième milliard qui donnera la supériorité à la fois dans le monde du numérique, dans le monde de tous les échanges stratégiques et qui leur donnera le primat sur le plan géostratégique. Donc nous, en Europe, nous sommes l'enjeu du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Une Europe qui, en dépit de tous les discours, reste un acteur impuissant. C'est une masse inorganisée en puissance, contrairement à ce qu'on dit. Et tout ce qu'on fait, c'est réguler, mais il n'y a pas de volonté stratégique. On l'a illustré aujourd'hui dans cette émission. On aurait pu dire, on va faire le traçage carbone des voitures électriques depuis le moment où on a construit les batteries jusqu'au moment où les batteries sont déconstruites. C'est pas ça qu'on fait en Europe. On fait le calcul du carbone lorsqu'on tourne la clé dans le contact. Donc voilà, on a une Europe astratégique, attirée stratégique, sans vision stratégique, sans pensée stratégique, dans un monde où vous avez deux super prédateurs qui veulent prendre le contrôle de la planète.
J'entends bien l'analyse, après je me demande si des solutions nous pouvons en trouver en Europe.
Et... si on peut en trouver, moi je serai conseiller du président de la République, d'abord sur 5 à 7 ans, je double les dépenses militaires, parce que les dépenses militaires c'est aussi un élément de la réindustrialisation. J'agirai massivement sur la décarbonation pour ne pas dépendre du carbone importé, ce qui suppose de relancer la construction de barrages électriques, ce qui suppose des mini-barrages, pas des barrages de serpents. Ça suppose un investissement colossal dans le logement pour réduire l'empreinte
carbone. Nucléaire.
Pour réduire l'empreinte carbone du logement, réinvestir dans le nucléaire, réinvestir dans le photovoltaïque. Voilà, donc on peut construire des politiques stratégiques structurantes, mais comme il n'y a pas de volonté stratégique à la tête de la France, on est dirigé par un type brillant, mais qui a pas de vision stratégique. Et je donne une illustration. Dans son premier mandat, il supprime la taxe d'habitation, coût cumulé sur le quinquennat 40 milliards. Et au même moment, il demande à Cédric Villani de produire un rapport sur l'intelligence artificielle. Il met 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle sur 5 ans. 40 milliards sur la taxe d'habitation, 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle. Moi, je serais au pouvoir, j'aurais fait l'inverse.
Ouais. Alors après, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Après, des décisions ont été prises, mais alors, le calendrier de ces décisions, c'est opérationnel 2030-2035. C'est loin. 2030,
ah oui, mais là, ça 2035. Enclenche
Ah oui, mais c'est loin.
Le comportement des entreprises.
Une autre proposition de loi est en préparation, Guillaume Poitridal. Il s'agit, pour une fois, de dire que les propriétaires doivent aussi avoir des droits face aux locataires indélicats. On verra jusqu'où va ce texte de loi. Est-ce qu'il va jusqu'à donner une vraie capacité coercitive à un propriétaire pour évacuer un locataire qui squatte, car des histoires comme ça se multiplient. En tout cas, il s'agit aussi de soutenir les locataires dans leur quête, tout simplement, pour se faire payer correctement leur loyer tous les mois.
Les propriétaires, vous voulez dire?
Les propriétaires, bien sûr.
Non, non, non. La France est le pays qui protège le plus le locataire et qui martyrise le plus le propriétaire. Et après, on s'aperçoit, on se dit, c'est terrible parce qu'il n'y a plus d'appartements à louer pour la classe moyenne. Ils sont obligés d'aller dans le logement social. Je la fais extrêmement courte, tout simplement parce que l'appétence, en effet, des investisseurs du bail, privé, est très très ralenti par cet arsenal de protection en fait du locataire qui est unique au monde. On avait fait, je me souviens, une étude pour savoir où est-ce que il y avait un arsenal de protection du locataire défaillant aussi puissant dans le monde. On n'a pas trouvé. Donc
il y en avait en Scandinavie qui a été effacé,
Absolument, absolument. Il y en avait autrefois et puis ensuite ça a été effacé tout simplement parce que les gens se sont dit en fait la meilleure régulation possible, c'est d'avoir plus d'offres.
Ben voilà,
tout simplement. Et si on a plus d'offres, eh bien les loyers baissent tout simplement parce que les propriétaires se font de la concurrence. La seule condition que demande le propriétaire, c'est qu'en effet, quand le loyer n'est pas payé, au bout d'un certain temps, on puisse évincer le locataire défaillant. Ça, c'est possible dans tous les pays. En France, c'est extrêmement difficile. Et ça va jusque, vous savez, l'État a accepté de se faire condamner, en fait, hein, pour ne pas évincer les gens. Donc, on peut obtenir des indemnités de l'État, ce qui est extrêmement compliqué. Et puis, l'exécution d'un jugement d'expulsion, je vous souhaite vraiment bonne chance, parce qu'il faut que le commissaire, en lui-même, finalement, juge qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, etc., etc. Donc, en fait, les expulsions en France, elles sont extrêmement rares. Et ça pose un grand, grand problème.
On a une ligne un peu dominante anticapitalisme dans la réflexion générale en France sur les questions économiques notamment. Généralement, on n'aime pas l'actionnaire, on n'aime pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est un riche et le locataire, généralement, est une victime.
Et fausse parce qu'en fait, on s'aperçoit que les meilleurs payeurs, c'est les familles modestes et que ceux qui abusent du système sont généralement des gens assez éduqués, qui connaissent toutes les procédures juridiques pour pouvoir contourner le système. Et en fait, c'est la classe moyenne, c'est certaines personnes, pas tous heureusement, de la classe moyenne qui abusent du système.
Ça a été l'un des messages du week-end. Bruxelles a très largement révisé, on terminera par ça, 3 minutes 30, très largement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2023 pour la zone euro. L'été dernier, la Commission espérait 1,4% en 2023, désormais elle espère 0,3%. Elle considère que nous allons basculer en récession dès le quatrième trimestre 2022. Et parmi les pays de la zone euro, le PIB de l'Allemagne désormais est attendu à -0,6% en 2023, après +1,6% en 2022. Et vous nous dites tous les deux ce matin que 2023 peut se passer beaucoup mieux que prévu.
Ah oui, tout le monde boira du noir. C'est très lié, bien sûr, à la crise de l'énergie qui avait commencé avant l'Ukraine, l'invasion russe le 24 février. Mais justement, revenons à l'Ukraine. Le fait que Kherson revienne dans les mains des Ukrainiens, si vous regardez la carte, depuis le début, je me disais que le Dniepr est une frontière naturelle entre les pro-russes et les pro-européens. Surtout, quand vous remontez vers le nord grâce aux victoires de l'armée ukrainienne et que vous avez presque plus que les oblasts de Donetsk et celui qui est à côté, plus la partie qui est le long de la mer d'Azov. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir une réflexion sur jusqu'où on va mener cette guerre à coup de mort ukrainienne. Et vous voyez que la réflexion aux États-Unis s'intensifie, puisque ce sont les Américains qui financent l'essentiel de l'effort de guerre ukrainien. Et les Américains s'interrogent sur le fait de siffler à la fin de la partie, parce qu'ils se rendent compte, les Américains, que par rapport au conflit entre la Chine et les États-Unis, le problème de l'Ukraine, c'est d'envoyer la Russie du côté chinois, et que ça, c'est très mauvais pour les Américains. Donc, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. C'est-à-dire que tout à coup, alors que les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont échoué à plusieurs reprises, elles finissent par conduire à un cessez-le-feu. Et tout à coup, on va se regarder, on va se dire, mais finalement, où sont les problèmes autres que l'Ukraine ? Les entreprises sont pas très endettées, les ménages ont du cash, pas les ménages les plus pauvres, mais en moyenne, les ménages ont du cash. La guerre d'Ukraine s'arrête et que les prix de l'énergie se dégonflent, on pourrait parfaitement avoir, dans 6 mois, la Commission européenne qui dise « Ah, ben j'avais prévu 4, puis j'ai dit 0,3, puis finalement, ça va être plus 2. »
On a 58 secondes, c'est la fin, Guillaume Poitrinal. Vous vous dites qu'effectivement, si l'Ukraine, la guerre en Ukraine, connaît un changement radical, c'est tout simplement toute l'année 2023 qui est modifiée.
En fait, on n'a que des indicateurs au rouge, mais ils peuvent passer au vert assez rapidement. On peut passer à une économie mondiale plus stabilisée, issue de la paix, une énergie en effet qui baisse, j'espère pas trop pour les hydrocarbures et le charbon, vous l'aurez compris, mais en tout cas un coût de l'énergie qui baisse très clairement, et puis une ère post-Covid où en fait tout le monde revient à une consommation post-Covid, à un tout petit peu plus d'activité post-Covid, parce qu'on a encore des secteurs, je pense au cinéma, je pense à un certain nombre de cinémas, qui continuent à fonctionner en dessous en fait de 2019, et ça je pense que progressivement ça devrait rejoindre quand même malgré tout la normale.
On avait eu ce débat un jour avec Jean-Marc Daniel, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, si rien ne se passait comme prévu en 2023, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine faisait pause et que l'économie chinoise repartait, c'était pas effectivement moins 0,1 ou moins 1%, mais peut-être plus 3, plus 4% voilà. De croissance. Notamment
on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, on n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle. Comme on est juste avant Noël, c'est le message de ce lundi.
Merci Guillaume Poitrinal, Christian Saint-Étienne. Rendez-vous demain à 9h.